Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne vous fais l'affaire, je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère est en souffert, qu'elle est dedans sa tombe, et se moquer des bombes, et se moquer des verres. Quand j'étais prisonnière, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme, et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, on est les années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bons apôtres, messieurs les présidents. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
John Baez, version finale douce, soft, oui. Parce qu'il y a une autre version qui dit « Prévenez vos gendarmes, que j'aurai une arme et que je sais tirer ». Donc nous sommes le deuxième vendredi du mois, tiens, étrange, et on fait un revernissage. C'est l'action 115 au Dradec, une action toujours contre la guerre, avec des textes et encore des textes, et du son. Vous pouvez passer au 40 rue Alfred Duméril ce vendredi 8 avril, entre, à partir de maintenant, ça dure, et on pourra justement lire des textes, voir des textes et écouter du travail sonore qui est fait pour l'instant par Stéphane, par Saoud et par d'autres. Mais nous, Fabien et moi, eh bien, on va dans cette parole d'expo, à nouveau, continuer à vous lire des textes sur contre. Pas sûr, contre la guerre. En France, près d'un demi-million de personnes travaillent directement à rendre les guerres possibles, soit en faisant partie de l'armée, soit en bossant dans l'une des florissantes usines d'armement. À quoi il faut ajouter tous ceux qui travaillent dans les laboratoires de recherche sur la défense ou l'armement. Non seulement Saint-Cyr ou Polytechnique, mais aussi des labos au sein des facultés, tout ce qu'il y a de plus public et généraliste, comme à Montpellier, Montpellier 3, Panthéon Sorbonne, Paris 1, l'Institut français de géopolitique de Paris 8, l'Université de Bordeaux, de Grenoble, des Alpes, de Lyon 3, par exemple. Il y a encore à ajouter tous les emplois indirectement créés par le maillage industriel sur le territoire. Combien de communes dont les équipements sont arrosés par de grosses taxes locales directement issues de la vente d'armes. Et aussi, ajouter le boulot que font des boîtes comme Havas en diffusant les campagnes de recrutement de l'armée française, 3,9 millions d'euros touchés en 2016. Bref, en France, la tuerie fait vivre, si l'on ajoute tous les chiffres, au moins 3% des actifs ayant un emploi. Mais on aurait tort de ne voir dans la guerre qu'une histoire de gros sous. Faire la guerre, en 2020, comme de tout temps, c'est aussi et toujours concourir pour le pouvoir, créer des nations, tracer des frontières, faire des démonstrations de force. Les responsables n'ont pas grand-chose à cacher. C'est le ministre Le Drian lui-même qui a déclaré à l'Assemblée le 17 décembre 2019 « Chacun le sait, ce qui se joue au Sahel, c'est notre propre sécurité en plus de celle des pays concernés. C'est la frontière sud de la sécurité de l'Europe et c'est un enjeu essentiel. Fermez les guillemets. George Moss concluait en 1990 son étude sur la brutalisation de la société au XXe siècle par ces mots. En fin de compte, le mythe de la guerre est indissociable du culte de la nation. Si celui-ci tombe en désuétude, comme ce fut le cas après la Seconde Guerre mondiale en Europe centrale et occidentale, celui-là est fatalement affaibli. Mais si les nationalismes ressurgissent en tant que religion civique, le mythe à nouveau les accompagnera. Et c'est valable aujourd'hui comme hier. Il y a en permanence 10 000 militaires déployés sur le territoire français et des guerres aux quatre coins du monde. Il a donc semblé indispensable de s'attaquer à la question de l'armée, et cela va de pair à celle de la guerre. Si on veut aller au-delà des slogans, c'est pas si simple. On commence par se heurter à sa propre ignorance. Que sait-on précisément des guerres qui sont menées de nos jours ? On se rend compte, en chemin, qu'on manque d'outils. L'antimilitarisme n'ayant jamais été une spécialité française, on nous a dit que les traditions antimilitaristes espagnoles ou italiennes sont bien plus fortes. En tout cas, ça n'empêche pas d'avancer. Mais le chemin reste plein d'ornières. Il s'agit de déceler la guerre partout où elle se cache, sans trébucher sur les critiques qui ne seraient qu'économiques, ou qui prendraient parti pour un camp, ou qui confondraient antimilitarisme et le principe abstrait de la non-violence, quitte à laisser faire l'ordre social en place. En 1940, déjà, le fameux pacifiste Giono défendait Vichy qui apportait la paix. C'est qu'il ne faudrait pas esquiver la question au prétexte qu'elle est piégée. En 1973, au lendemain de la guerre du Kippour, un groupe de jeunes révoltés, regroupés autour du journal Désir Libertaire, diffusait un tract qui s'attirait la fureur de tous les politiciens du Moyen-Orient. Le tract était intitulé « Contre les illusions nationalistes pour une alternative internationaliste » et signé par trois groupes socialistes, un Parisien, un Algérien et un Israélien. Malgré l'abîme qui nous sépare de leur socialisme, nous faisons nôtre la position que ces gens affirmaient il y a presque 50 ans. Nous ne soutenons aucun camp, soit-il opprimé, millénaire ou autrement bien vieillant, dans l'effort de la guerre. Et pour autant, nous ne soutenons aucun effort de paix avec nos maîtres. Vu la violence inhérente de cette société, on ne peut pas s'opposer à la guerre sans porter des coups à tous ceux et tous ceux qui en ont besoin. Pour une poignée de dollars. Le nerf de la guerre, on le sait, est toujours l'argent. Bonne nouvelle pour la France, son budget militaire augmentera encore de 4,5% en 2020, pour la troisième année consécutive. D'après la presse généraliste, les armées bénéficient ainsi de la plus haute hausse de crédit dans le projet de loi de finances pour 2020. Selon les prévisions de la loi programmation de 2019-2025, elle n'est pas près de ralentir. Tout ce fric ira fournir de nouveaux équipements de guerre, augmenter les rémunérations et prendre en charge les surcoûts des opérations extérieures, OPEX, et des missions intérieures, MISINT. Mais ce n'est pas la peine de hurler au loup quand il faut voir toute la meute. La hausse des budgets militaires est mondiale. Ils ont même atteint en 2018 leur niveau de 1988, soit 1822 milliards de dollars. Depuis 10 ans, 3 pays détiennent des records. Plus 73% pour le Pakistan, plus 28% pour la Corée du Sud et plus 29% pour l'Inde. S'il faut enfoncer des portes ouvertes, rappelons que les dépenses des uns, nourrissant les recettes des autres, ces hausses de budget viennent engraisser non seulement les industriels de guerre, mais aussi tous les professionnels du meurtre autorisé, du simple bidasse aux États eux-mêmes, qui restent les principaux acteurs de tous les conflits armés mondiaux. L'industrie militaire française compte notamment 8 poids lourds dont les sièges se situent sur le territoire national. Renault Truck Défense, Airbus Group, Thales, Safran, Nexter, Dassault Aviation, MBDA et DCNS. L'État est actionnaire des 4 premiers et le jeu de la bourse rapporte plusieurs milliards par an à son budget. Ces industries compte non seulement sur les commandes de l'État pour prospérer, mais également sur les ventes d'armes à l'étranger. Attention, ces armes ne doivent servir ni à commettre des crimes de guerre, ni à persécuter des populations. C'est écrit sur le petit papier quand on vous les vend. Donc, on est certain que ça ne peut pas aller sur la consommation civile. En effet, plusieurs de ces grands groupes, et la plupart de ceux qui sont plus petits mais innombrables, ne se limitent pas à produire en fait du matériel militaire. On les retrouve. Ils œuvrent à fournir du nucléaire civil, des hélicoptères, des ascenseurs, des avions, des logiciels d'identification biométrique, des technologies de télécommunication. La recherche et l'innovation font de permanents allers-retours entre les secteurs civils et militaires, se répandant dans tous les aspects de notre vie quotidienne.
Propaganda. Comment manipuler l'opinion en démocratie? Le manuel classique de l'industrie des relations publiques, selon Noam Chomsky. Véritable petit guide pratique, écrit en 1928 par le neveu américain de Sigmund Freud, ce livre expose cyniquement et sans détour les grands principes de la manipulation mentale de masse ou de ce que Bernays appelait la fabrique du consentement. Comment imposer une nouvelle marque de lessive? Comment faire élire un président? Dans la logique des démocraties de marché, ces questions se confondent. Bernays assume pleinement ce constat. Les choix des masses étant déterminants, ceux qui parviendront à les influencer détiendront réellement le pouvoir. La démocratie moderne implique une nouvelle forme de gouvernement, invisible, la propagande. Loin d'en faire la critique, l'auteur se propose d'en perfectionner et d'en systématiser les techniques, à partir des acquis de la psychanalyse. Un document édifiant où l'on apprend que la propagande politique au XXe siècle n'est pas née dans les régimes totalitaires, mais au cœur même de la démocratie libérale américaine. Édouard Bernays, 1891-1995. Neveu de Sigmund Freud, émigré aux États-Unis, il fut l'un des pères fondateurs des relations publiques. Conseiller pour les grandes compagnies aériennes, Bernays a mis au point les techniques publicitaires modernes. Au début des années 1950, il orchestra des campagnes de déstabilisation politique en Amérique latine, qui accompagnera notamment le renversement du gouvernement du Guatemala, main dans la main avec le CIA. Édouard Bernays fut un homme très influent. Ce neveu de Freud demeure pourtant un illustre inconnu auprès du grand public. Pas de contradiction ici, loin s'en faut, car l'homme fait partie de ce gouvernement de l'ombre. Aujourd'hui, Spin Doctor et autres conseillers en relations publiques qui régit toutes les activités humaines, du choix de nos lessives aux décisions de nos chefs d'État. À travers ses multiples exemples aux allures de complot, son œuvre, Propaganda, est tout à la fois une théorie des relations publiques et le guide pratique de cette ingénierie du consentement. Explicitant avec une clarté étonnante les multiples techniques et ressorts psychologiques de la propagande, le cher oncle n'est jamais bien loin, cette œuvre, écrite en 1928, apparaît aujourd'hui comme un témoignage édifiant et profondément actuel qui aurait toute sa place dans un cours de self-défense civique. Précieux, ce manuel l'est par son absence totale de langue de bois. À la manière d'un Patrick Lelay des grands jours, Bernays revendique sans même rosir son mépris pour le troupeau et son goût pour l'autorité. Si l'auteur choque aujourd'hui, il désarçonne aussi par tant de candeur et de ferveur pour ce qu'il chérit comme un progrès pour l'humanité. Il pousse surtout à réfléchir sur la réalisation de l'idéal démocratique, tant la transparence et la consternante bonne foi de son argumentation en trois temps paraît infaillible. Selon lui, la propagande n'est pas un vilain mot, car l'action de dominer et manipuler les foules est inévitable. nécessaire pour organiser le chaos et même profitable pour guider la masse égarée. Ainsi soulagée de l'éreintante tâche de penser par soi-même, Bernet fonde toute son argumentation sur l'évacuation de l'individu et la fatalité du consentement populaire. Si Goebbels a trouvé en propagande de quoi approfondir ses méthodes, peut-être l'ouvrage peut-il nous aider aujourd'hui à mieux discerner l'invisible et moins céder à l'endormissement. Propaganda, la fabrique du consentement, un film documentaire de Jimmy Leipold de 2017. En France, prise de vue réelle, 53 mm, couleur, mode de production, télévision, musique originale Siegfried Scanto, image Denis Goubert, son Alexandre Marchal, patati patata. Comment influencer les foules ? À travers la figure de Edouard Bernet, l'un des inventeurs du marketing et l'auteur de Propaganda. Un passionnant décryptage des méthodes de la fabrique du consentement. Si les techniques de persuasion des masses apparaissent en Europe à la fin du 19e siècle pour lutter contre les révoltes ouvrières, elles sont développées aux États-Unis pour convaincre les Américains de s'engager dans la Première Guerre mondiale. Peu connu du grand public, neveu de Sigmund Freud, l'auteur du livre de référence Propaganda est l'un des inventeurs du marketing. Edouard Bernays en fut l'un des principaux théoriciens. Inspiré des codes de la publicité et du divertissement, ses méthodes de fabrique du consentement des foules s'adressent aux désirs inconscients de celles-ci. Les industriels s'en emparent pour lutter contre les grèves avec l'objectif de faire adhérer la classe ouvrière au capitalisme et transformer ainsi le citoyen en consommateur. En 2001, le magazine Life classait Edouard Bernays parmi les 100 personnalités américaines les plus influentes du XXe siècle. Ce documentaire, riche en archives, retrace, à la lumière d'une analyse critique, dont celle du célèbre linguiste Noam Chomsky, le parcours de celui qui, entre autres, fit fumer les femmes, inspira le régime nazi, accompagna le New Deal et fut l'artisan du renversement du gouvernement du Guatemala en 1954. Un film que vous pouvez voir sur YouTube, il s'appelle Propaganda, la fabrique du consentement. Vous le verrez aussi sur Dailymotion, évidemment.
C'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes va en guerre. C'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette. Faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis en quelques-uns. Trempe ici c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crève, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
Des guerres et l'opposition aux guerres. Par exemple, en 1905, Eugène Merle parle ainsi. Oui, conscrit, dès ta plus tendre enfance, les classes dirigeantes se sont ingéniées à t'inoculer le virus du patriotisme. Par une éducation mensongère et hypocrite, elles t'ont persuadé que l'ennemi, c'était l'être qui était né au-delà des lignes conventionnelles que la main des fourbes traça. trop naïf pour voir la fausseté de leurs allégations, tu as cru au sophisme de ces bandits, alors qu'en réalité, l'ennemi, c'est notre maître. Pour le trouver, ce maître, ne jette point les yeux par-dessus les frontières abhorrées, vois-le près de toi. C'est l'exploiteur que tu nourris de ton travail et qui en échange te gratifie de coups, encore de coups, toujours des coups. Non, il n'est pas vrai que tu doives considérer comme ennemi le frère de misère de l'extérieur. C'est un exploité comme toi. Il a droit à toutes tes sympathies et tu ne dois plus participer à ces abominables tueries fratricides qu'exaltent nos maîtres. Non, il n'est pas vrai que sa présence dans ce que, pompeusement, on appelle ta patrie, est la cause de l'avilissement de ton salaire. La cause en est directement au monstrueux système économique qui nous régit. Ce frère de misère est comme toi, obligé d'en subir les dures contraintes. Laisse les maîtres agiter le spectre de la patrie menacée. Que t'importe leur jérémiade et leurs lamentations ? Ce patriotisme de battage, orné de phrases ronflantes, ne parvient pas à cacher la cupidité de leurs appétits. L'armée leur est nécessaire pour maintenir leurs privilèges économiques. C'est sur elle, sur sa force brutale, qu'ils assurent leurs prérogatives et leurs vols. Par elle aussi sont tenus en respect les barbares du dedans que sont les frères de misère. Eugène Merle, 1905. Et puis aussi, opposition, et là c'était en 1943, et ce sont des textes de Marie-Louise Bernery. Donc je rappelle le contexte, 43 donc. Les bombardements britanniques ont semé la mort parmi des milliers de personnes au cours des dernières semaines. Au sommet des alliés du Québec, des politiciens qui disposent d'abris, hors de portée des bombes, prévoient de continuer les bombardements massifs comme moyen de poursuivre la guerre contre le fascisme. Hambourg, Milan, Gênes, Turin sont des champs de ruines, leurs rues couvertes de cadavres et ruisselantes de sang. Hambourgiser est devenu un terme nouveau pour désigner la destruction totale des villes et le meurtre de masse de leur population par des raids terroristes. La presse vante la capacité de la RAF, la Royal Air Force, nom de l'armée de l'air britannique depuis 1918. Donc sa capacité à semer une telle destruction dans toutes les villes d'Allemagne et d'Europe centrale. Elle hurlait d'indignation quand les Allemands bombardaient des églises et des hôpitaux. Mais quand l'odeur du carnage monte des villes autrefois belles et peuplées, elle trouve les mots pour s'en réjouir. Quand les conduites d'eau de Milan furent atteintes et le centre-ville inondé, elle en fit un sujet de plaisanterie. Un journaliste plein d'esprit l'appela le lac Milan. Qu'est-ce que ça peut lui faire que l'eau s'écoule d'entre les ruines et les débris des bâtiments bombardés, que les habitants du quartier étaient contraints de rester dans les décombres de leur maison pendant 4 jours jusqu'à ce que l'eau se retire et qu'ils puissent sortir. Le lac Milan est en effet une magnifique plaisanterie. Mais pendant que les journalistes gloussent dans les pubs de Fleet Street, les hôpitaux et les équipes de secours travaillent jour et nuit pour essayer de pallier la souffrance, la faim, le dénuement des victimes. Nos caricaturistes trouvent également que la destruction massive se prête aux commentaires humoristiques. Berlin est hors antenne et sera bientôt hors de la carte. Mais lorsque les journaux publieront les photos et les descriptions de destruction et de misère à Hambourg, à Milan, les habitants de Clyside, de Coventry, de Plymouth et de East End à Londres se souviendront des jours et des nuits où leurs maisons étaient bombardées, leurs proches tués ou en attente de leur tour dans l'hôpital. Lorsque les journaux jubilent en parlant des flots de réfugiés fuyant précipitamment Hambourg, avec ce qui leur reste de bien sur le dos, des habitants de Milan campant sous les arbres, les habitants des villes anglaises bombardées se souviendront de leurs propres tentatives pour échapper aux nuits de terreur. Ils se souviendront que quand ils fuyaient Plymouth pour la campagne en un long cortège, ils avaient trouvé les grandes maisons des riches portes closes et avaient été condamnés à errer sans nourriture ni abri. Qui souffre dans les grandes villes industrielles quand elles sont bombardées ? Sinon les ouvriers qui ont vécu des vies de misère et de labeur, tout comme ceux de Clyside ou de Coventry. Quand le port de Naples est bombardé, c'est le quartier ouvrier densément peuplé qui entoure le port qui souffre le plus. Les bombes ne frappent pas les villas somptueuses des riches fascistes disséminées le long des côtes de la baie de Naples. Elles atteignent ces maisons à plusieurs étages si entassées les unes sur les autres que les rues ne sont en rien d'autre que de sombres passages entre elles, des maisons où les gens vivent à 4 ou 5 par pièce. Quand les villes allemandes sont bombardées, ce n'est pas l'élite nazie qui souffre. Elle dispose d'abris profonds et confortables, tout comme l'élite de ce pays. Ces familles ont été évacuées dans des endroits sûrs ou en Suisse. Mais les ouvriers ne peuvent pas s'échapper. Le prolétariat urbain, les ouvriers français, hollandais, belges ou scandinaves sont forcés d'aller travailler par les agents de la Gestapo de Himmler, malgré les violents bombardements. Pour eux, s'échapper est impossible. Les ouvriers des usines britanniques de munitions et d'aéronautique sont priés de se réjouir de ces destructions massives auxquelles il n'y a pas d'échappatoire. Des photographies montrant des amas de ruines sont affichées sur tous les murs avec la légende « Voici le résultat de votre travail ». La classe dirigeante veut qu'ils soient fiers d'avoir contribué à détruire des familles de la classe ouvrière. Combien de fois, par le passé, avons-nous entendu que l'anarchisme était synonyme de bombe, que les anarchistes travaillaient à la destruction totale? Combien de fois la police et la répression de la classe dirigeante se sont abattues parce que un anarchiste avait essayé d'assassiner un seul dirigeant ou un politicien réactionnaire? Mais plus d'hommes et de femmes ont été tués au cours d'un seul raid que pendant toute l'histoire des bombes anarchistes authentiques ou inventées. Les bombes anarchistes étaient destinées aux tyrans, responsables de la misère de millions de personnes. Les bombes de la classe dirigeante tuent sans distinction des milliers d'ouvriers. Désordre, anarchie, criait la presse bourgeoise, lorsque des isolés résolus comme Spardellotto, Cerru, Lucchetti ont essayé de tuer Mussolini. Maintenant, les mêmes capitalistes veulent rayer de la carte d'Europe les villes entières. Ils veulent réduire à la famine des populations entières, entraînant un fléau d'épidémies et de maladies dans le monde entier. Voilà la paix et l'ordre qu'ils veulent apporter aux ouvriers du monde avec leurs bombes. Un tout petit truc.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques.
L'ennemi est bête, hein ? Il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. J'en ris encore. L'ennemi se déguise parfois en géranium. Bon, on peut pas s'y tromper, car tandis que le géranium est à nos fenêtres, l'ennemi est à nos portes. Pierre Desproges.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe H, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente.